Bonjour Jacques Naveau, nous allons découvrir ensemble la suite du patrimoine mayennais en feuilletant votre ouvrage paru cette année, Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir. Nous allons vous suivre dans la région du nord-est de la Mayenne, de Mayenne au Mont des Avaloirs. Je rappelle que votre livre disponible en librairie est publié par la SAHM, Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, avec le concours du Conseil Général. Alors nous voici donc dans la région de Mayenne au Mont des Avaloirs et vous nous dites qu'une des caractéristiques de cette région, ce sont ses richesses de l'époque gauloise ou du moins des restes.
Oui, voilà une époque qui a laissé peu de traces monumentales et dont on parle donc très rarement quand il est question de patrimoine. Or, dans cette région-là, on a un ensemble qui est quand même remarquable, c'est l'oppidum de Moulay, qui a beaucoup défrayé la chronique à cause des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à l'occasion de la mise en place de la déviation de Moulay de Mayenne. Et c'est vrai que cet oppidum est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle oppidum ? Un oppidum, c'est une ville gauloise, si vous voulez. Hein. C'est une ville fortifiée avec des remparts en terre, avec des fossés ou fortifiée par la nature quand il y a des vallées, ce qui est le cas à Moulay. Et ce sont les premières villes en fait sur notre territoire. C'est vraiment là qu'a commencé l'urbanisation. Ce phénomène s'est surtout développé à la fin du IIe et au premier siècle avant Jésus-Christ, donc une cinquantaine d'années avant la conquête romaine. On connaît beaucoup de ces oppidums dans le centre de l'Europe, en Tchéquie, en Autriche, on en connaît en Allemagne, et puis dans l'est de la France. Par contre, dans l'ouest, c'est un phénomène qui semblait presque ignoré. On connaît des sites gaulois, mais de beaucoup plus petites dimensions. Et ça a été la grande surprise, cette découverte de Moulay, un oppidum qui fait 130 hectares, c'est tout à fait remarquable. Ah, oui. Donc c'est tout à fait dans les mêmes proportions que les grands oppida, c'est le pluriel d'oppidum en latin, les grands oppidas du centre de l'Europe. À l'intérieur de cette vaste enceinte de 130 hectares, il y a une enceinte plus réduite qui fait une douzaine d'hectares que j'ai fouillé il y a très longtemps dans les années 1970 et où l'on a d'ailleurs eu les toutes premières données sur l'époque gauloise dans notre département. Donc voilà un ensemble qui a été certainement une capitale, la capitale du peuple des Diablins, dont on connaît le nom du peuple qui vivait à l'époque gauloise dans notre région, et qui a précédé Jublin. Jublin a pris la suite de Moulay. Moulay a été abandonné au bénéfice de Jublin. Il y a eu un déplacement de population sur une dizaine de kilomètres quand les Romains ont conquis la Gaule. Pour terminer sur l'époque gauloise, je vous signale un autre monument, mais nettement plus modeste, bien entendu, c'est une stèle du type de ces stèles que l'on trouvait dans les cimetières à l'époque gauloise et que l'on peut voir à Villaines-la-Juhelle, au pied du clocher de l'ancienne église Saint-Georges, dont ne subsiste plus que clocher
roman. Oui, à l'entrée de Villaines-la-Juhelle.
Exactement. Alors, pour les périodes anciennes, je signale quand même que l'époque romaine a laissé quelques traces. Et notamment justement à Moulay, on peut s'interroger sur l'église de Moulay, parce que quand on la regarde bien, on s'aperçoit qu'elle a un mode de construction qui est typiquement romain, avec des parements en petits moellons cubiques bien réguliers, avec l'utilisation de la brique, notamment un grand arc de brique qui vraiment, si j'ose dire, sente la brique romaine. Et donc, je ne serais pas surpris qu'un jour, on puisse démontrer qu'il s'agit d'un bâtiment romain conservé en élévation. Qu'est-ce que c'était ? Alors là, il faudra aller voir avant d'en parler, mais enfin, un bâtiment qui est debout, en fait, et qui est debout sur plusieurs mètres. Donc, voilà un sujet intéressant pour l'avenir. En dehors de cela, l'époque romaine est représentée aussi par un très joli site, c'est le Gué de Loré. Le Gué de Loré, c'est juste en limite de la Mayenne et de l'Orne, l'endroit où la voie romaine Jublin-Vieux à côté de Caen, quittait ce qui est aujourd'hui la Mayenne, donc traversait la rivière la Mayenne, par un gué où on voit encore des grosses pierres dans le lit de la rivière.
Et alors après, nous allons passer directement
au Moyen-Âge, si vous voulez, au Moyen-Âge, et en commençant par les châteaux, parce qu'une des caractéristiques de cette région, c'est d'avoir un important ensemble de châteaux médiévaux, à commencer par celui de Mayenne, et qui est d'ailleurs, si on peut dire, le plus intéressant du point de vue archéologique, parce que c'est le prototype du château. On est là dans un bâtiment carolingien, un bâtiment qui a été construit entre 900 et 920,
Et qui a été peu transformé finalement.
Alors il a été transformé au cours des âges, mais il reste beaucoup de choses du bâtiment carolingien. On pense que ce bâtiment a été construit à l'époque de Charles le Simple par les premiers comtes du Maine qui étaient alliés aux carolingiens et qui ont construit ça pour faire un point fort en quelque sorte face aux Bretons. Et en tout cas, chose plus intéressante encore, si vous voulez, c'est que Mayenne prend la suite de Jublain. C'est précisément à l'époque où on construit le château de Mayenne que la ville de Jublain finit de disparaître.
Ah, oui.
Et je pense véritablement qu'il y a eu un déplacement de population, de la même façon qu'à la fin d'époque gauloise, des populations s'étaient déplacées de Moulins pour aller créer une nouvelle capitale à Jublain. Eh bien, à l'époque carolingienne, ils ont quitté Jublain pour aller créer une sorte de nouvelle capitale, si j'ose dire, mais dans un contexte différent, qui est la ville de Mayenne, au bord de la rivière, parce que c'est vrai que la présence d'une rivière est quand même un atout fort pour développer un site.
Richesse, oui.
Une richesse, oui. Donc oui, vous disiez, est-ce que ce bâtiment a été transformé? Eh bien, il y a eu quand même des modifications au cours des âges. Au XIIe siècle, on a rajouté un étage. Au XIIIe siècle, surtout, le château a été profondément modifié avec l'ajout d'une très vaste cour qui est le parc actuel du château, entouré de remparts et qui constitue un château typique de ce qu'on fait à partir de Philippe Auguste, quoi. Et n'oubliez pas que c'est un musée, que c'est le musée non seulement de la ville et du château de Mayenne, mais de l'ensemble du Moyen-Âge dans notre département. Mais il n'y a pas que Mayenne. À Ambrière, par exemple, il reste la trace d'un donjon qui a été construit au milieu du XIe siècle, on connaît même la date, 1054-1055, par Guillaume de Normandie, à une époque où...
Ah oui, Guillaume le Conquérant.
Guillaume le Conquérant, exactement.
Ouais.
Et à une époque où il était en conflit avec les comtes d'Anjou. Or, le baron de Mayenne était allié aux comtes d'Anjou, et c'est pourquoi Guillaume de Normandie a été construire ce donjon en Brière. Alors, il en reste un pan de mur, c'est tout, hein, mais enfin, que l'on voit depuis la rue, à proximité de la mairie d'Ambrière. De la même époque également, à Villaine-la-Juelle, on peut voir, un peu difficilement, parce que c'est un peu perdu dans les jardins et les maisons, mais enfin, la base d'un donjon, d'un grand donjon quadrangulaire, comme on en faisait au XIe, XIIe siècle. Il en reste toute la partie basse, le reste a été détruit lors de la guerre de Cent Ans. À Aron également, près de la mairie d'Aron, on peut voir une tour qui, elle, est très caractéristique du XIIIe siècle et qui est le reste d'un château vassal de la baronnie de Mayenne. Lui aussi détruit lors de la guerre de Cent Ans. Mais enfin, il reste encore deux niveaux de cette tour qui est bien mise en valeur, que l'on peut voir dans un environnement agréable,
oui,
à côté
parc,
dans un parc à côté de la mairie, c'est ça. Et puis enfin, quand même, Lassay, bien sûr. Lassay avec son château, l'ancien château de Lassay avait été détruit pendant la guerre de Cent Ans, en 1422, et il a été reconstruit à une vitesse extraordinaire en un an, en 1457-1458, par Jean II de Vendôme, un seigneur qui ne manquait pas de moyens, donc, visiblement, et qui a construit pratiquement toute la forteresse telle qu'on peut la voir, sauf une partie qui a été faite un petit peu plus tard, un boulevard d'artillerie, ajouté en 1470-1480, par là, à l'époque des rivalités entre Louis XI et le duché de Bretagne. Et les boulevards d'artillerie sont des éléments peu conservés, c'est rare qu'on puisse en voir dans cet état. Donc vous voyez, un patrimoine de château qui est vraiment très important. D'ailleurs, Lassay, on pense aussi au bois Thibault, hein, un peu plus tardif.
Oui.
C'est la fin du XVe siècle, construit par la famille Dubellay, c'est-à-dire la famille du fameux poète.
Et là, du coup, par rapport à la région de Dernay que nous avons parcourue à notre dernière émission, vous disiez qu'il y avait une différence, et on passe aux religieux maintenant, au niveau du roman par rapport au...
Oui, c'est ça, une différence du point de vue du centre d'intérêt majeur. Dans la région d'Ernée, il y a beaucoup de gothique. Ici, eh bien, ce qui prédomine, c'est très largement l'époque romane, avec en particulier deux grandes œuvres, Ambrière et Javron. Les églises d'Ambrière et Javron sont deux grands édifices construits tous les deux à la charnière du XIe-XIIe siècle et qui appartiennent véritablement à la même école romane. c'est des édifices qui sont tournés vers la Normandie. Ils ont un certain nombre de caractéristiques qui sont typiquement normands, comme par exemple le fait de ne pas avoir de voûte. Il n'y a pas de voûtement ancien. Les voûtes qu'on voit aujourd'hui à Javron sont des voûtes tout à fait modernes. Mmh. Mais anciennement, les nefs n'étaient pas voûtées, comme c'est toujours le cas en Normandie.
C'est-à-dire quand elles sont pas voûtées,
il y avait une charpente, quoi. Il y avait une charpente simplement. Mais c'est à partir du milieu XIIe siècle qu'on s'est mis à voûter les églises en Normandie, mais pas avant. D'une façon plus précise, si vous voulez, elles appartiennent à un ensemble qui est à cheval sur le Maine et la Normandie, auquel appartient également l'église de Notre-Dame-sur-l'Eau à Domfront, dans l'Orne. Hein. Et donc ces trois églises ont beaucoup de points communs. Mmh. L'un des points essentiels, c'est